Eh bien, en ouvrant ma Bible hier matin, j'ai... je suis arrivé sur l'épître aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 14 à 21. Et quel beau passage pour nous instruire, nous exhorter ce matin. Nous allons donc prier encore pour que la parole de Dieu nous instruise et puis que nous puissions en tirer réellement profit. Seigneur Dieu Père Céleste, je demande ta bénédiction sur la prédication de ta parole, que tu sois à l'œuvre maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que ce soit toi qui nous édifie ce matin, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, le Dieu de notre salut, et nous nous plaçons sous ton regard et sous l'influence du Saint-Esprit dans nos cœurs, aujourd'hui au milieu de nous. Amen. Chapitre 3, dans l'Épître aux Éphésiens, versets 14 à 21, avec, on peut dire ce résumé, que Christ habite nos cœurs par la foi. C'est une prière que l'apôtre déploie ici devant nous. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints qu'elle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est une prière intense et une prière confiante parce que motivée par tout ce qui précède, à cause de cela. Ou bien, dans certaines versions, c'est pourquoi. À cause de cela, l'apôtre l'a déjà exprimé au verset 1 de ce chapitre. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous, païens. Et puis là, il fait une digression et il explique son ministère. Et il revient à ce verset 14 sur ce qu'il a commencé et ce qu'il voulait dire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, je prie donc très fortement. Cela, c'est tout ce qu'il a expliqué au chapitre 1 et 2. C'est le mystère, la révélation du mystère de Dieu en Jésus-Christ. Dieu qui donne une vie céleste aux croyants des peuples comme aux croyants juifs. Il commence son épître « En lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous sommes devenus héritiers. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. À cause de cela, je prie pour vous. Ainsi donc, à la fin du chapitre 2, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Oui, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. À cause de cela, je prie pour vous, parce que Dieu a fait une œuvre et que la grâce, sa grâce a commencé à agir en vous. Vous avez cru. Prière, parce que le message de la grâce de Dieu a déjà commencé son œuvre dans les cœurs. Au chapitre 1, verset 15 et à 17. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Et l'apôtre poursuit donc sur ce qu'il demande à Dieu pour les croyants. Et donc ici, il reprend en fait sa prière également sur la base de ce que les membres de l'assemblée ont déjà reçu, sur ce que Dieu a fait pour eux et qu'ils ont commencé à croire. Afin que le Dieu, le Père, donc, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne. C'est Dieu qui donne les choses qui appartiennent à sa gloire. Ce n'est pas nous qui allons les chercher, les trouver, les arracher à sa volonté. C'est lui qui nous les donne. Il donne par la puissance de son esprit pour l'installation de Christ en nous, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Dieu le Père, qui agit par la puissance de son esprit et qui installe Christ dans nos cœurs. La foi, le point de départ de votre vie en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, c'est la foi. La foi en Dieu le Père, qui l'a donné pour nous, la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour nous. Il faut rappeler Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quant à Jésus lui-même, si nous lisons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, verset 4, 3 et 4, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Et au chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, le Seigneur Jésus s'est livré pour nous. Alors nous sommes appelés à croire et de cette foi initiale, eh bien, découle de nouveaux pas de foi, de nouvelles compréhensions, de nouveaux engagements. Ici, l'apôtre dit au verset 15, « Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus », chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu ». au chapitre 3, verset 12. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Et enfin, ici, par la foi, Christ peut habiter de plus en plus dans nos cœurs, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est le but du Seigneur. Alors, habiter, ça suppose un édifice. Comme il est dit au chapitre 2, versets 21 et 22 que j'ai lu, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Cela est vrai de l'Église, de la communauté des croyants, et cela est vrai de chaque saint. En lui, l'édifice s'élève. C'est un édifice en construction. Et au plus l'édifice s'élèvera, s'édifiera, au plus Christ pourra y habiter. Le Seigneur permet, lorsque nous bâtissons l'édifice, lorsqu'il agit en nous pour que s'édifie la maison de son Fils, eh bien, il permet que Christ y habite. Mais bien sûr, l'édifice commence par les fondations. Et où donc s'installent et demeurent les fondations de l'habitation de Christ? C'est dans son amour, étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous pourrez connaître, comprendre, donc, et connaître l'amour de Christ. C'est l'amour tout-puissant de Christ qui a accompli la volonté du Père, qui fonde notre vie chrétienne. Christ s'est livré pour nous. Mais c'est plus précis que cela. L'apôtre, Épître aux Hébreux, par exemple, chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Christ s'est offert lui-même à Dieu pour nous. Il a accompli la volonté du Père et il s'est donné au Père pour être le sacrifice parfait qui nous sauve. Dans la même épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » C'est à Dieu que Christ s'est offert, pour que Dieu puisse l'employer pour être le sacrifice parfait, pour faire l'expiation des péchés. C'est sur ce fondement, cet amour de Christ qui s'est offert à Dieu pour nous, que nous sommes fondés, que nous pouvons fonder son habitation dans nos cœurs, que nous pouvons nous édifier pour que Christ habite dans nos cœurs. Dans l'Épître aux Colossiens encore, chapitre 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Toujours la foi, toujours être enraciné et fondé en Christ. Dans Jude, cette très courte épître qui précède l'Apocalypse, nous lisons les versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en étant fondé sur... Alors, c'était une expression très importante, sur votre très sainte foi. Votre foi est très sainte. Ce n'est pas quelque chose de banal que d'avoir la foi qui sauve, la foi en Jésus-Christ. C'est une foi très sainte. Ce n'est pas une simple croyance. C'est la foi venue du Saint-Esprit et donc priant par le Saint-Esprit. Vous pouvez vous édifier et vous maintenir dans l'amour. Alors l'apôtre Paul n'en reste pas à l'analogie minérale, la pierre, le bâtiment, qui est inerte. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, lorsqu'il reprendra lui aussi l'image du temple, la rendra vivante en disant, sa première épître, chapitre 2, versets 4 et 5, « Approchez-vous de lui, Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et cette notion de vie, eh bien, elle apparaît aussi dans ce que l'apôtre Paul emploie comme expression lorsqu'il dit « étant enraciné et fondé dans l'amour ». Il prend cette image des racines, les racines qui s'étendent, qui pénètrent profond dans l'amour de Christ, ce qui donne un arbre bien stable et qui se développe parfaitement. Nous sommes appelés à nous enraciner dans l'amour de Jésus. Que toutes nos pensées, nos émotions, nos sentiments soient tournés vers l'amour de Jésus, et alors nous serons bien capables de nous développer, de développer une vie et une habitation de Christ en nous. L'amour de Christ est à comprendre et à connaître. L'apôtre dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour de Christ, les saints, eh bien, s'instruisent mutuellement grâce à l'enseignement des apôtres et des prophètes de Christ. Et l'Esprit Saint peut puissamment fortifier notre être intérieur pour comprendre l'amour de Christ. Et c'est l'objet même de la prière de l'apôtre, parce que c'est hors de notre compréhension naturelle. Il faut que nous soyons instruits, que nous apprenions à comprendre tout ce qu'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ, tout ce qu'il représente. Et ici, il est question justement de l'amour de Christ dans toutes ses dimensions, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. quatre dimensions, ça veut dire que il remplit, cet amour remplit tout l'espace. Tout l'espace, et on peut dire même tout l'univers. Et donc ça veut dire aussi que l'amour de Christ touche à toutes les dimensions de notre être, tous les aspects de notre vie. Je vais vous lire un petit commentaire là, ici, dans la Bible annotée au sujet de ces différentes dimensions de l'amour de Christ. Donc l'apôtre demande à Dieu d'élever vers ce mystère toutes les aspirations de ses frères. Il proclame la largeur de cette miséricorde divine qui s'étend à tout pays, à tout peuple, à tout pécheur. La longueur qui dure d'éternité en éternité en ce sauveur qui jamais ne cesse d'aimer. La hauteur par laquelle une créature déchue est élevée du sein de sa poussière et de sa corruption jusqu'au trône de Dieu. Et la profondeur, abîme insondable de cette miséricorde qui peut atteindre jusqu'au dernier des pécheurs dans sa dégradation. Si nous ne comprenons pas encore ce mystère, contentons-nous en attendant d'imiter la charité de Dieu, sa profondeur en secourant ceux qui sont dans la plus profonde misère, sa largeur en embrassant dans l'amour de Dieu indistinctement tous les hommes, même ceux qui le méritent le moins, sa longueur en ne nous bornant à rien et ne nous lassant jamais, sa hauteur en agissant que par lui comme notre principe, ne regardant que lui comme notre modèle, rapportant tout à lui comme à notre fin. Alors, si l'on préfère ne pas donner une signification particulière à chacune de ces quatre dimensions de l'amour du Seigneur, on peut y voir simplement l'expression de l'immensité de cet amour qui enveloppe de toutes parts le croyant, qui s'étend dans tous les sens autour de lui à perte de vue. Oui, l'amour de Christ est immense, il remplit tout. Mais cet amour ne faisons pas que le comprendre intellectuellement, mais nous en faisons aussi lorsque nous nous édifions dans cet amour, lorsque nous laissons Christ habiter dans nos cœurs, nous en faisons l'expérience de l'amour au-delà de la connaissance rationnelle. Faire l'expérience de son amour jusqu'à ce que Dieu nous remplisse totalement. Et lorsque Dieu nous remplit totalement, nous sommes comme Christ. Nous sommes dans le don de nous-mêmes. En fait, nous nous livrons nous-mêmes par l'amour de Christ. L'apôtre a du mal parce qu'il dit que nous devons connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc ça veut dire que, en réalité, nous ne pouvons pas totalement saisir et comprendre cet amour. Il nous dépasse, et aucune connaissance intellectuelle, rationnelle, ne pourra jamais nous satisfaire totalement. Cet amour est vraiment au-delà de tout. La puissance qui a ressuscité Christ a eu pour principe de l'élever au-dessus de tout dans la plénitude de Dieu. Aux Colossiens, il est dit, chapitre 1, verset 19-20, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et donc au chapitre 2, versets 9 et 10, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Chaque fois, c'est lié au fait que Christ est élevé au-dessus de tout, comme cela est dit au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, versets 19 à 23. Voyez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ a donc été élevé au-dessus de tout pour se constituer ce corps spécial qu'est l'Église, qu'il remplit de cette plénitude de Dieu. C'est le but de Christ, de remplir son Église de la plénitude de Dieu et de remplir nos cœurs de la plénitude de Dieu. C'est cela que l'apôtre nous indique, qu'il dira d'une autre façon au chapitre 4, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus n'a pas d'autre but que celui-là, que de nous rendre parfaits, de nous rendre remplis de Dieu. C'est cela son œuvre. Et si nous recevons et nous nous ancrons dans son amour, alors nous recevons de cette plénitude qui est en lui. Et toutes les autorités, les puissances qui s'opposent à la connaissance de Dieu, eh bien, sont anéanties, sont réduites à l'impuissance. Alors, il poursuit avec cette affirmation, cette assurance, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il y a eu pas mal de générations qui se sont succédées depuis le temps des apôtres, et le Seigneur est toujours en train de se glorifier dans la génération présente. Et il le fera encore dans la génération suivante, dans toutes les générations. Alors à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Soyons réceptifs à cette prière de l'apôtre qui demande pour nous que nous soyons remplis des richesses de la gloire de Christ. Et préparons-nous à ce que Christ habite réellement dans nos cœurs. Demandons-le simplement, en toute simplicité, à Dieu. Et il ajoutera à ce que nous avons demandé, puisque il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc s'il le fait au-delà, c'est que nous n'arrivons pas à concevoir cet au-delà. Ça lui appartient. Mais nous demandons, nous prions, nous pensons et nous nous approchons de lui dans une foi sincère. Et si nous le faisons, alors Dieu va ajouter. Et il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté au début, mais je veux terminer par cela. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Cette notion de famille. En fait, Paul ne s'adresse pas aux chrétiens comme à des individus isolés, mais comme faisant partie d'une famille. Vous n'êtes pas isolés, ne vous croyez pas isolés et ne restez pas isolés parce que vous êtes en réalité membre d'une famille à laquelle Dieu a donné un nom, ou plutôt que le Père a constitué les termes que relèvent justement les commentateurs. Le Père, Pater, la famille, Patria. La famille vient du Père. Le Père céleste constitue sa famille. Et on peut dire c'est ses familles. Dieu se constitue une famille ou des familles à partir de ce qu'il est lui-même. L'apôtre reconnaît cela et s'appuie sur cette réalité. Nous vivons l'action de Dieu, nous connaissons l'action, l'amour de Christ dans un cadre familial. Dès le commencement, les îles ont été peuplées selon leur famille. Genèse chapitre 10, verset 5. La promesse de bénédiction à Abraham a été faite pour les familles de la terre. Chapitre 12, verset 3 de la Genèse. Les familles des nations se prosterneront et rendront gloire à Dieu. Psaume 22, 28, 96, verset 7. Dieu distingue les familles d'Israël pour être leur Dieu. Jérémie 31, verset 1, mais aussi Amos 3, 2, car si Dieu a distingué ces familles d'Israël, elle doit aussi lui rendre compte de leur obéissance. Et nous voyons, par le ministère des apôtres, des familles entières être sauvées. Dans le chapitre 16 du livre des Actes, la famille de Lydie, la famille du geôlier. Et puis Paul mentionne aussi dans 1 Corinthiens la famille de Stéphanas. Ce ne sont pas seulement des individus qui sont concernés par le salut. Ce sont des familles. Les familles sont une constitution divine bien plus qu'humaine. Avant d'être humaine, les familles sont une constitution divine. Et si elles perdent leur lien avec le Père, elles se perdent, elles se disloquent. Mais Dieu veut continuer, il travaille toujours à nouveau pour donner de son nom à des familles. Et il est là aussi pour donner une famille à ceux qui n'en ont plus. Bien sûr, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Psaume 68, versets 6 à 7. Les églises sont bien sûr des familles du Seigneur, avec des frères et sœurs qui sont ajoutés par la foi en Jésus et la nouvelle naissance. Et donc, de génération en génération, parce qu'une famille, eh bien, ça, on peut dire, ça a sa dimension en largeur avec tous les membres qui la constituent, mais ça a une dimension en longueur aussi à travers les générations. Eh bien, de génération en génération, par cette grande famille et les familles distinctes que le Seigneur suscite, la gloire est rendue à Dieu au siècle des siècles. Et aujourd'hui, en tant qu'assemblée, nous formons une de ces familles qui se glorifient de Jésus-Christ, non pas d'elles-mêmes, mais qui se glorifient de Jésus-Christ. Le Seigneur, je rends grâce à Dieu qu'en plein été, nous soyons un bon nombre de la famille réunie pour glorifier ensemble le Seigneur. Gloire à son nom. Amen.